7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous des tchatcheuses. Comme chaque mois, je reçois trois femmes journalistes de trois continents pour commenter l'actualité ou l'air du temps avec leur regard. Paola Martinez Infante, journaliste chilienne. Hola Paola.
Hola Emmanuel.
On est ravis de vous retrouver. Ana Navarro Pedro, journaliste portugaise. Bom dia, Ana.
Bom dia et hola parce qu'on a en partage, hein, en hispanophone et lusophone.
Oui, c'est ça, vous essayez toujours côté à côté du studio. Ça commence fort. Et pour changer, je vous présente une blogueuse, la guinéenne Djeretou Diallo. Diarama, Djeretou.
Diarama, Emmanuel.
De vous à moi, mondeblog.org, c'est là qu'on peut vous lire, c'est votre cours de récréation.
C'est bien
à
ça.
Vous. Hein. Et vous pouvez dialoguer comme ça avec le monde. Mesdames, vous abordez dans cette émission tous les sujets. Il sera question du nouveau code civil guinéen qui n'est pas encore promulgué, de la jeune élue démocrate Alexandra Ocasio, huée sifflée par les républicains aux États-Unis, ou encore d'une publicité polémique en France, enfin pas seulement, à propos d'un banal rasoir pour hommes. Quoi qu'on ne voit pas le rasoir dans la publicité, c'est tout ça justement, c'est tout le... Et bien d'autres sujets. En fin d'émission, on reviendra sur l'étrange succès d'un designer américain qui souffre de problèmes de concentration et qui a mis au point une sorte de journal intime de rappel de ses objectifs. Ça s'appelle le Bullet Journal. Mmh. Dramatiquement basique et évident comme méthode, mais c'est un peu comme la liste des courses. Hein. Les lecteurs trouvent ça génial et vous nous direz ce que vous en pensez, les tchatcheuses. Si tu peux me laisser aller jusqu'au bout, s'il te plaît.
Tchatcher, c'est parler avec plaisir.
Maintenant, les filles.
Ce sera tout.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Ana Navarro Pedro, on commence fort, on commence par une histoire de femme, une fuite haletante, fuir sa famille, fuir son pays pour vivre libre. C'est l'histoire de cette jeune saoudienne de 18 ans, Raaf Mohamed Al-Kunun, d'ailleurs qui a, donc vous nous le disiez avant qu'on démarre l'émission, qui a supprimé son patronyme puisqu'elle a été reniée par sa famille. Elle est la fille d'un haut fonctionnaire d'une province du nord de l'Arabie Saoudite. Et un jour, elle a dit « Je taille la route ».
Absolument. Et donc, c'est des femmes de courage dont on va parler aujourd'hui aussi, mais nous sommes toutes des femmes de courage. Elle était en vacances avec sa famille au Koweït. Elle a réussi à échapper à leur surveillance, à prendre un avion vers Bangkok. Elle voulait aller en Australie. Mais les autorités thaïlandaises la retiennent. Ils disent qu'elle n'a pas un billet de retour, elle n'a pas un hôtel réservé. Et elles sont un peu de mèche avec les autorités d'Arabie Saoudite. Mais la jeune femme, elle a 18 ans, mais elle a un sacré tempérament. Mmh. Elle se barricade dans une chambre d'hôtel et elle ameute tout le monde sur les réseaux sociaux. Très vite, le hashtag de Save Raaf prend de l'ampleur. Et puis, elle réclame la protection des Nations Unies, du Haut Commissariat aux réfugiés.
Elle écrit qu'elle porte plus le voile, qu'elle est battue par son frère, qu'elle a été enfermée 6 mois chez elle parce qu'elle s'était coupé les cheveux. Et elle appelle au secours. Elle dit qu'elle a peur d'être tuée si elle rentre chez elle.
Et elle a raison d'avoir peur d'être tuée parce que dans sa fuite, elle dit « Je suis athée ». Et donc, si elle rentre en Arabie Saoudite, voilà. Donc, effectivement, elle demande la protection des États-Unis, de l'Australie et du Canada. Et il arrive qu'au Canada, elle a de la chance quand même, le Premier ministre Justin Trudeau est dans un bras de fer diplomatique avec Riyad depuis un certain temps. Et il voit là l'occasion de donner la monnaie de sa pièce à Riyad. Et il décide de lui accorder le statut d'asile politique.
Avec une grande mobilisation avec sa ministre des Affaires étrangères.
Et avec une protection très importante d'ONG. Donc voilà,
elle est maintenant réfugiée au Canada.
Hein. Elle est réfugiée.
Au-delà des tensions diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et le Canada, vous dites que ça pose pas mal de questions sur la liberté des femmes dans les pays du Golfe.
Ça pose énormément, parce que son cadre médiatique et son grand succès qui nous satisfait énormément, mais derrière, il y a énormément de cas dont le succès n'est pas si évident. Juste pour l'Arabie Saoudite, il y a 1750 femmes en 2015, et cette statistique est d'une université saoudienne elle-même. Qui ont essayé d'échapper à leurs conditions de femmes dans ces pays où elles sont vraiment proches de l'esclavage, comme disait la jeune Raaf. Eh bien, très peu réussissent à s'échapper parce que les autorités des pays où elles font un transit, comme les Philippines, ou comme la Thaïlande dans ce cas précis ou d'autres, les renvoient dans leur pays d'origine. On a le cas même des princesses des pays du Golfe. Une jeune princesse fille du émir de Dubaï, eh bien, elle a réussi à s'échapper à sa condition. Elle était avec des amis protégés dans un bateau en eau territoriale internationale parce que personne ne voulait d'elle. Elle avait tellement peur d'être mal avec son père, n'est-ce pas? Eh bien, des forces spéciales de l'armée sont venues la chercher avec la complicité des autorités indiennes et l'ont ramenée. On n'avait plus de ses nouvelles, quand même, comme son histoire avait ameuté pas mal, alerté pas mal. En fin d'année, on l'a revue. Et là, avec la haut commissaire aux réfugiés Mary Robinson, l'Irlandaise qui a été présidente d'Irlande, et on ne sait toujours pas si c'était une mise en scène de public relations ou pas. Et je voulais dire un nom, Dina Ali. Si elle est toujours en vie, si elle nous écoute, ah oui, saoudienne. C'est une saoudienne, professeure. Oui. Et elle a essayé de s'échapper il y a 2 ans. Elle a été renvoyée. Elle a été battue jusqu'à l'inconscience par son père et son frère, dont son oncle, je ne sais plus, dans l'avion de retour à Arabie Saoudite. Et bien, s'il y a des gens encore qui pensent à elle, et bien, son nom est prononcé. Peut-être que ça va relancer si elle est encore en vie.
Espérons-le.
Donc, pour vous, c'est une affaire qui va bien au-delà de la kafala qui retient les femmes. Il faut savoir qu'en Arabie Saoudite, pour obtenir un passeport, pour voyager, pour se marier, pour ouvrir un compte bancaire, il faut l'autorisation d'un tuteur, d'un père, d'un frère, d'un mari. C'est un verrou qui reste à faire sauter en Arabie Saoudite après l'autorisation.
Et dans les pays du Golfe.
Et dans les pays du Golfe. Ça a été assoupli dans certains pays, les femmes sont néanmoins autorisées à conduire en Arabie Saoudite.
Oui, mais bon, ça, c'est vraiment
ça,
des
c'est
petits
le cachet sexe.
C'est du cachet sexe pour
un écran de fumée.
Au-delà de la question des femmes, l'Arabie Saoudite, ceci dit, c'est pas un secret. On le sait maintenant, continue de surveiller ce que font ces ressortissants lorsqu'ils sont à l'étranger, confère le terrible assassinat du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul. Donc, finalement, la condition des femmes, c'est une des questions parmi d'autres.
C'est une des questions parmi d'autres. Et puis, remarquez une chose. Pourquoi je parle aussi de tout cela? Parce que les autorités occidentales ont le cas de Rahaf est l'exception qui confirme la règle, ont tendance à fermer les yeux là-dessus. Même par rapport, j'ai sérieux doutes par rapport à l'intervention de la commissaire aux réfugiés par rapport à cette princesse de Dubaï. Par exemple, on a beaucoup parlé de Khashoggi, de son cas absolument dramatique. Un journaliste qui, à l'intérieur du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, se fait assassiner, probablement démembré. On ne sait toujours pas où c'est son corps ou ce qui reste son corps. C'est ça qui a provoqué un peu la chute de l'image très, 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 très bonne qu'avait jusqu'alors le prince héritier MBS, Mohamed bin Saoud.
Salman.
Mais de la maison de Saoud. Oui. Mais lui-même, sa femme, on sait depuis longtemps, il y a des rumeurs très
persistante
et très avec des défaites avérées, que sa femme est battue. Elle avait demandé l'asile politique en Angleterre en 2012 avec ses 4 enfants, et ça lui a été refusé. Elle a été renvoyée chez elle. L'Institut pour les études du Golfe, Institute for Gulf Studies, qui est basé à Washington, nous rappelait en fin d'année dernière que la femme de ce jeune prince héritier est tous les mois à l'hôpital avec des concussions, d'être frappé de violence, victime de violence domestique. Et même quand l'affaire Khashoggi est sortie, ce côté-là de la violence domestique, on n'en a pas parlé. Eh bien, ce n'est pas anecdotique, c'est important.
L'histoire de cette jeune saoudienne de 18 ans, Raf Mohamed, là, ça y est, qui a l'asile au Canada, ça pourrait permettre qu'on reviennent sur l'ampleur de ces drames pour ces femmes, à votre avis?
On va très vite oublier, mais nous, les tchatcheuses, on ne le permettra pas.
Djeretou Diallo, vous avez un... Oui, je vous en prie.
Alors moi, ce que je voulais souligner dans cette affaire, c'est quand même l'usage qu'on a fait des réseaux sociaux, et on a tendance souvent à dire que les réseaux sociaux, ça ne sert à rien. Là, c'est un cas précis, c'est en tout cas un exemple qui nous permet de voir que grâce à une mobilisation sur les réseaux sociaux, on peut parvenir à un résultat sur le terrain. Et ça c'est important de le souligner.
Barricadée dans une chambre d'hôtel, elle a réussi à obtenir un asile politique au Canada, à l'autre bout de la planète.
C'est ça
le résultat.
Puis c'est le cas de tout le monde qui demande l'asile politique aussi, c'est une très bonne nouvelle.
En effet. Djeretou Diallo, la jeunesse africaine est bâillonnée sur Internet, du moins dans certains pays, et forcément en tant que blogueuse, ça vous interpelle. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez que si vous étiez une blogueuse tanzanienne, il se trouve que vous êtes guinéenne, si vous étiez une blogueuse tanzanienne, vous savez que vous auriez à payer $500 de taxes pour tenir votre blog?
Je sais, Emmanuel, je sais, c'est si sidérant parce que dès que le contexte sociopolitique se tend un petit peu, certains pays ont tendance en tout cas ont pris l'habitude de couper Internet et certains réseaux sociaux. Donc les derniers exemples, vous évoquiez la Tanzanie à juste titre, on a la RDC en décembre 2018 où Internet et des réseaux sociaux ont été coupés.
20 jours sans Internet.
Sans
du
Internet,
tout,
c'est sans hallucinant. Au 21e siècle, en 2018, c'est juste aberrant.
Ça veut dire pas de transfert d'argent, pas de téléphonie mobile, parce qu'on revient à la base de la téléphonie mobile qui est très coûteuse, alors que sinon tout le monde s'appelle sur WhatsApp.
Sur WhatsApp, sur Viber, sur Messenger. Donc ça paralyse toute une catégorie, tout un pan de la société, de l'économie. Au Zimbabwe, il y a quelques jours, c'était le régime qui a cherché à étouffer une fronde provoquée par l'augmentation des prix des carburants en coupant de nouveau Internet. Au Tchad, cela fait bientôt un an que les réseaux sociaux sont coupés et depuis la mobilisation qui a suivi la présidentielle en avril 2018. Alors, quand il n'est pas question de coupure, c'est des frais qui sont augmentés. C'était le cas au Bénin, où c'était pas une coupure en tant que telle, mais on a vu que le 17 septembre 2018, une nouvelle tarification est entrée en vigueur.
Ouais. Et le gouvernement a reculé.
Le gouvernement, suite à la
révolte,
à la mobilisation,
touche pas à mon MO.
Taxe pas mes mots. Ouais. Hashtag taxe pas mes mots qui a bien marché. Et donc ça a amené le gouvernement à reculer. Donc forcément, toutes ces attitudes nous questionnent et nous font craindre le pire, le fait que ça devienne une habitude. Parce qu'aujourd'hui, ces outils suscitent de nombreuses craintes de la part de ces gouvernements parce qu'ils ont vu ailleurs l'impact qu'elles peuvent avoir. Des réseaux sociaux ont servi à fédérer des soulèvements. On l'a vu. Un peu partout. Donc ils n'hésitent pas vraiment à couper ces outils en faisant fi, nous, de notre liberté d'expression, de la liberté d'expression de citoyens qui, de leur côté, vraiment, sont avides, justement, de cette liberté-là. Donc moi, à mes yeux, cela traduit une fragilité des régimes concernés. Ils ont peur. S'ils ont peur d'Internet, on peut se demander à juste titre s'ils sont au final légitimes, si leur légitimité n'est pas contestable. Donc pour moi, ce sont des géants au pied d'argile. C'est ce que j'aime dire. Mais il faut aussi rappeler que ces jeunes ne tarissent pas d'idées pour contourner ces contraintes et tout. Ils usent, en général, au Mali, il y avait une blogueuse, Fatouma Harber, qui clairement disait, par exemple, qu'elle utilisait des VPN. Donc c'est très courant, vraiment. Ils essaient de contourner ça. Moi, en tant que jeune femme aujourd'hui de 25 ans, en tant que blogueuse, en tant que digital native et toutes les étiquettes qu'on peut mettre derrière mon âge et ma génération, je me mets à la place de ces jeunes. J'ai de la chance, je vis en France, je ne fais pas face à ça, en tout cas pas tous les jours, sauf quand je me rends en Guinée. De temps en temps, en Guinée, il y a une loi qui a été très décriée, c'est la loi sur la cybercriminalité qui a été votée en 2016 parce que justement, elle avait un aspect restrictif, elle était floue, elle était vague et on cachait derrière des articles plein de choses, et pour un rien, on pouvait se faire arrêter.
C'est d'ailleurs le cas au Zimbabwe, où il y a un texte qui date de 2007, où l'État peut saisir des conversations téléphoniques et des mails pour garantir la sécurité nationale.
Ouais. Mais qu'est-ce qu'on met derrière ça, la sécurité
effectivement. Mais c'est ce qui fait que le principal opérateur téléphonique a eu l'instruction d'ouvrir Internet, sauf les réseaux sociaux, en janvier au Zimbabwe, justement.
Mais ce qui est terrible, c'est que Internet, ce n'est pas seulement pour rigoler, ce n'est pas seulement un aspect ludique avec les réseaux sociaux, c'est pas seulement pour venir montrer des photos et rigoler, tout ça. Internet, ça sert. Ça sert lorsqu'on est étudiant, lorsqu'on est élève, pour se renseigner, pour se documenter, on suit des formations en ligne et même les réseaux sociaux. Moi, aujourd'hui, j'ai appris plein de choses grâce à Facebook, grâce à Internet. J'ai noué des liens qui m'ont permis d'avancer dans ma vie. Donc couper Internet, c'est vraiment couper toutes ces opportunités et nous confiner dans un monde, au final, qui est ouvert aujourd'hui et qui est globalisé. Mmh. Et c'est égoïste. Moi, je trouve ça égoïste. On a peur pour son petit pouvoir et on en fait pâtir à tout le monde. C'est démodé.
C'est de la censure.
C'est bien sûr, qui
hélas revient très à la mode.
C'est ça, aujourd'hui, avec les gouvernements populistes.
Paola Martinez Infante, à quoi pensent les hommes en se rasant le matin? Mais la question n'est pas si anodine, surtout avec la polémique suscitée par la publicité Gillette qui fabrique des rasoirs. Et dans cette publicité, on ne voit pas de rasoir à aucun moment. On ne voit pas d'hommes donc en train de se raser, ni même de produits. Et on ne parle...
Ni de femmes en train de se raser.
Non. Et pourtant, on ne parle que de la fameuse pub Gillette.
Bullying. The Me Too movement against sexual harassment.
Toxic masculinity.
Is this the best a man can get? Is it?
It's likely happening here in Tel Aviv.
A problem.
Paola Martinez, il faut nous raconter ce que raconte cette huile, voilà. D'abord parce qu'elle est très longue.
Oui, c'est très long. C'est pas si long, c'est 2 minutes, c'est pas beaucoup hein, dans un temps, dans une vie, mais ça passe très vite. Donc du coup, comme je disais, les fabricants de rasoirs Gillette font une pub qui sort sur la vague MeToo, encore une fois, et qui irrite notamment les masculinistes. Pourquoi ? Parce que dans cette pub, on l'entend là dans l'extrait, la question qui s'est posée avant Gillette, c'était les meilleurs qu'un homme puisse espérer. Et ça devient aujourd'hui, c'est qu'il y a des meilleurs dans un homme. Donc, ça commence la pub très fort hein, avec
ça raconte les hommes face à la déferlante MeToo.
Tout à
en
fait,
gros, hein.
Avec des c'est un machisme très toxique, violent, les machos qui sont en train de dire ouais je suis un homme, etc. En train de se bagarrer.
Et au fil des secondes, les hommes se transforment.
Se transforment et les
en 2 minutes. En deux minutes, ils se transforment.
C'est quand même, ça passe très vite, hein, mais quand même il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de messages qui passent aussi. Et à un moment donné, ils disent on ne peut plus regarder aller faire marche arrière. Et ce qui a complètement fait réagir évidemment les internautes, notamment les gens, les publics cibles, que c'est les hommes qui achètent ces rasoirs, de dire vous ne prenez pour des prunes. On voit pourquoi vous ne vendez pas maintenant des tampons à la place des rasoirs. D'ailleurs, on ne voit jamais un rasoir. Ce n'est pas une vente des rasoirs, c'est plutôt un message de sensibilisation, notamment après toute la déferlante qu'a eu les hashtags MeToo et la force
donc,
justement qu'a eu.
Le message de la marque, c'est vous êtes en train de devenir des hommes bien, tous.
Tout à
c'est
fait. Non, il faut devenir un homme bien. Je que c'est pas mauvais, notamment parce que pendant il faut dire que depuis 15 mois, depuis les hashtags MeToo et tout ce qui a impliqué notamment ces mouvements de libéralisation de la parole des femmes, les dénonciations, les plaintes des violences sexistes et sexuelles partout dans le monde, bien entendu, on a parlé de qu'il fallait un engagement commun, pas seulement de la part des féministes, pas seulement de la part des femmes.
Donc de la part des hommes vis-à-vis d'ailleurs de la nouvelle génération des petits garçons.
Tout à fait. Et d'ailleurs, on est un garçon qui regarde aujourd'hui, c'est un homme qui deviendra un homme plus tard.
Alors 25 millions de vues, plus d'un million de pouces en bas.
Oui, 3 fois moins des pouces je n'aime pas que des pouces j'aime. Hein.
Ouais.
Parce qu'encore une fois, je disais, les hommes dans les commentaires, ils mettent en cause, ils pensent que la pub Gillette met en cause sa virilité, sa masculinité. ils disent que ça suffit de me les faire culpabiliser parce que j'ai entre les jambes. Il y a toutes sortes de messages aussi. Il y a un qui m'a frappé quand même, c'est...
Les masculinistes, comme vous dites, parlent d'une propagande féministe et de pubs surtout très moralisatrices quand même.
Oui, très...
Et qui dénoncent des clichés sur les hommes.
Je trouve que c'est pas si mauvais que ça quand même, de temps en temps, de rappeler qu'en effet, encore aujourd'hui, 21e siècle, il y a des stéréotypes comme ça, où les machos se portent toxiquement, de la façon où il s'est expliqué dans cette pub, et qu'il faut changer les habitudes, et qu'il faut commencer par sensibiliser. Ouais. C'est vrai que ça peut être moraliste pour les gens qui se sont atteints justement dans son masculinité, mais je pense qu'un message comme ça, ce n'est pas anodin dans les temps qui courent.
Vous l'avez vu cette pub
Je l'ai vue et moi je ne trouve d'ailleurs rien de moralisateur dans cette pub. Pour moi, ça, vraiment, ça n'attaque que des gens qui forcément ne se comportent pas bien de
tout
base.
À fait.
Cette pub met en évidence le quotidien de plein. On a des jeunes garçons dans une récréation qui se font pousser et il faut riposter pour être un homme, pour être viril. Donc il y a vraiment cette conception là, cette construction qu'on inculque à nos jeunes garçons pour dire que pour être un homme ne pleure pas, un homme ça pousse, un homme ça voilà. Donc moi je pense que est-ce que c'est utile ? Au contraire, cette pub vient poser cette question et ça ne peut être que.
Elle montre l'exemple d'un papa ou d'un instit qui vient et qui dit non, arrête de te battre. Soyons pacifiques.
C'est ça.
Et en même temps, il y a un
contre-modèle. C'est un peu l'ambiance, si vous permettez.
Anna, on t'attend avec impatience. Vas-y.
Oui, alors, c'est une pub qui est faite pour vendre.
Tout à fait.
Donc, il y a deux choses. Ils savaient que ça ferait un buzz en la concevant comme cela dans l'air du temps.
C'est le cas, d'ailleurs.
Je ne sais pas quel pourcentage d'acheteurs de lames Gillette sont des femmes, mais à mon avis, c'est un grand pourcentage parce que ce sont elles qui font souvent les courses pour la maison et qui achètent les lames pour leurs hommes. Donc, entre Gillette et d'autres marques, elles vont peut-être choisir plus facilement Gillette parce que la pub leur plaît aussi. Donc ça a dû être entré en ligne de compte aussi dans le calcul de l'entreprise.
On est d'accord, c'est une pub, ça a été donc
pondé par une agence de pub. Un petit truc très intéressant. À la fin, il y a une sorte de mosaïque de télé où les présentatrices ou présentateurs de télé parlent de la question Weinstein et de Et ça commence avec une image plein écran d'une journaliste américaine, Anna Kasparian, qui est la journaliste d'une chaîne uniquement YouTube qui s'appelle The Young Turks, et qui est très progressiste, qui est très à gauche, et Personne ne lui a demandé l'autorisation. On ne l'a pas payé. On n'a pas payé ni Anna Kasparian, ni la chaîne. On n'a pas leur demandé l'autorisation en droit d'auteur. On l'a utilisé pour une pub, pour gagner de l'argent. Et on a utilisé l'image d'une femme qui est très connue sur ces sujets-là, sans lui demander l'autorisation. Bon, ça, il n'y a pas une contradiction.
C'est le problème juridique de Gillette.
Ça, c'est l'interprétation anticapitaliste.
Non, c'est pas anticapitaliste. C'est très réaliste.
Bon, donc.
Mais si ce message peut
deux chatcheuses contre une.
Je ne sais pas si on est contre, en fait. Ce qu'elle dit, c'est évident, c'est logique. Mais aujourd'hui, lorsqu'on a une pub qui se positionne comme ça, c'est osé. Et forcément, pour moi, c'est à saluer. Les marques, en général, de rasoirs et tout, en général, s'adressent à des hommes et font intervenir des footballeurs.
Et aux femmes aussi, attends, les hommes.
Oui, mais en général, c'est vraiment leur cible. Ce qu'ils veulent en premier, c'est. Voilà, c'est
tout à fait, c'est changer les habitudes.
C'est ça. C'est pas la première fois, hein, parce que le groupe, puisque ça appartient au groupe Procter & Gamble, qui est une immense multinationale. Ils avaient fait aussi une pub en 2014 pour déconstruire les stéréotypes de genre, mais pour des serviettes hygiéniques cette fois-ci. Et c'était, il y avait eu une campagne hashtag comme une fille. Voilà. En tout cas, ça a bien relancé le débat sur la virilité et les masculinistes touchés au vif par cette pub. Vous restez avec nous, les tchatcheuses. On se retrouve juste après Sia Djeretou. On parlera de ce nouveau code civil en Guinée qui n'a toujours pas été promulgué. I'm a genius under pressure, no question, I'm really special. Up at Ashland when I bless you, molest you with intellectual. It's a pleasure, it gets sexual. Women limit complexion, quick connections, then ejections. My love is so ambidextrous. I'm a genius in perfection, a specialist in the exorcist. With excellence for evidence, necklaces for irrelevance. In the room, I'm the elephant, spelling it for the hell of it. A, B, C, D, R, U, G, H, I, J, K, L, S, D. Oh my.
See ya.
Genius, ça vous plaît,
oui.
Paola?
Oui,
c'est bien. Chez 7 milliards de voisins, c'est choisi par c'est Romain Pouch. Dubrac. Pour votre plaisir, mesdames les tchatcheuses, Djeretou Diallo, vous souhaitez revenir, et d'ailleurs, le dossier est loin d'être fermé, sur le nouveau code civil voté à l'Assemblée nationale guinéenne en décembre dernier, qui n'a pas été promulgué par le président Alpha Condé. Il demande une relecture du code. Voici ce qu'il disait déjà en mai dernier.
J'ai dit en Conseil des ministres, on a un débat actuellement au Parlement qui m'oppose les députés. Vous savez, depuis 60, en Guinée, c'est la monogamie. Mais comme beaucoup de ministres et députés sont polygames, ils veulent modifier. J'ai dit que je n'accepterai pas. Comment la Guinée peut dire monogamie en 1960 et en 2018 dire polygamie? Mais c'est extrêmement grave. Bon, mais d'autant plus que ce n'est pas respecté. Donc j'ai dit aux députés, en tout cas, si vous modifiez, je ne signerai pas.
Alors, dans ce nouveau code civil, il y a des articles en faveur des femmes. Je crois qu'il y a le partage de l'autorité parentale, la liberté de choisir sa profession sans l'accord de son époux. Tiens, quand on parlait de la kafala. Mais évidemment, le débat porte sur l'approbation de la polygamie avec l'article 281-282. Le mariage peut être conclu soit sous le régime de la monogamie, soit sous le régime de la polygamie, limitée à 4 femmes.
Oui. Alors, effectivement, samedi 29 décembre dernier, ce code civil a été voté à 37 voix contre 26 à l'Assemblée nationale. Alors, aujourd'hui, ce qui polarise le débat, c'est cette question de polygamie. Mais il faut quand même reconnaître que ce code civil, comme vous l'avez dit précédemment, il y a plusieurs avancées. dans ce code civil-là. Donc moi, j'ai tendance à dire, est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain?
donc, ce qui est horrible.
C'est terrible, mais en fait, comme le président le disait, ce qu'il dit, c'est bien, mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin que ce qu'il dit, en sachant que oui, la polygamie c'était avant et maintenant, comment on peut légaliser la polygamie en 2018? Mais dans ce cas, pourquoi ne pas faire en sorte que la loi soit respectée aujourd'hui? Pour moi, c'est vraiment une phrase pour être dite, c'est vraiment du politiquement correct, c'est pour faire plaisir aux organisations internationales. S'il y avait une volonté, la volonté aujourd'hui serait de respecter de respecter le code civil.
La loi existante. Dans les textes, la polygamie est interdite, hein, mais en fait, il y a des dérogations, évidemment.
C'est ça. Donc, le chef de l'État refuse de promulguer le code civil, expliquant qu'il dit en Guinée, ça ne sera pas, la polygamie ne sera pas légalisée sous son mandat. Mais aujourd'hui, parce que moi, j'ai échangé avec des députés et ils me disaient, tu sais, Djeretou, l'avantage de ce code civil, c'est que les femmes pourront, elles sauront à l'avance si le mari choisit la polygamie, elles sauront à l'avance, elles vont se préparer psychologiquement.
Tout à fait, puisqu'on choisit la case qu'on consigne.
C'est ça. Ouais. Mais en 2018, moi j'ai envie de dire, c'est ce qu'on peut proposer aux Guinéennes, c'est de se préparer psychologiquement à un éventuel mariage. Éventuel plurimariage. Moi je pense qu'il faut oser, il faut aller au-delà, il faut vraiment qu'on comprenne nos responsabilités nous-mêmes en tant que féministes, et je m'inclus dans ce groupe. Il faut savoir qu'en Guinée, la religion musulmane est très... c'est la religion musulmane. On a plus de musulmans que les autres religions, que les autres confessions. On a une tendance, une certaine facilité à réfléchir en fonction de l'islam. Et des gens m'ont dit qu'ils n'étaient pas choqués qu'un pays musulman promulgue des lois en fonction de l'islam, puisque ces lois visent une cible prioritairement musulmane. Mais pour moi, cette façon de penser est dangereuse, sauf si nous voulons faire de la Guinée à terme un pays islamique. Car premièrement, il y a beaucoup de musulmans, mais il y a aussi beaucoup de chrétiens, d'animistes qu'il faut prendre en compte. Autoriser la polygamie, pour moi, c'est introduire du droit religieux dans le droit civil. Cela peut constituer un précédent lourd. Ce serait vraiment ouvrir la boîte de Pandore dans un pays qui se veut laïque. On comprend aussi souvent mal le mot laïque en Guinée, alors que laïque, vraiment, c'est indépendance de l'État vis-à-vis des religions. En Guinée, l'État est garant de la cohabitation pacifique des religions. La question de la légalisation de la polygamie est donc sensible parce qu'elle engage le contrat social vis-à-vis de toutes les communautés religieuses. Dans l'idéal, moi, je pense qu'il faudrait lancer un débat national précédé d'une longue campagne, vraiment, d'informations sur la polygamie, notamment une campagne qui serait historique, car toutes les féministes, vraiment, se mettraient là-dessus, et elles devraient jouer leur rôle. Donc, cette campagne, premièrement, elle aurait pour rôle d'expliquer l'histoire de la polygamie, car beaucoup de gens ne savent pas que la polygamie était là avant l'islam, et que l'islam n'a fait qu'au final apporter les quatre femmes et deuxièmement, mettre en avant ce qui se passe dans une famille polygame, c'est l'éclatement familial. La polygamie apporte la jalousie entre les femmes, des demi-frères qui ne s'aiment pas, qui finissent par se faire la guerre. Et enfin, quand le père finit par décéder, ce qui se passe, c'est une guerre pour l'héritage. Donc, est-ce que...
Même dans les familles monogames, hein,
ceci dit.
Le cas des veuves du continent africain est compliqué, y compris dans des familles qui ne sont pas polygames.
Y compris, mais là encore plus. Je sais parce que j'ai grandi dans ce contexte sociétal-là.
Mais j'ai une question, et la pratique c'est quoi la pratique pour de vrai?
Enfin, pratique pour de vrai, c'est qu'aujourd'hui, elle est pratiquée. C'est que la polygamie.
Combien? Est-ce qu'on a, chiffres?
Non, on n'a pas de chiffres parce qu'en Guinée, bien sûr, on a un problème de statistiques. Elles sont
mais
jamais disponibles.
Mais plus ou moins, c'est très répandu.
Très répandu. C'est-à-dire, ce n'est même pas que les personnes qui ne sont pas allées à l'école et autres, c'est même des gens qui aujourd'hui bénéficient d'une éducation.
Y compris des députés.
Et y compris des députés. Le président le rappelait tout à l'heure. Donc, c'est vraiment courant, c'est répandu. Donc,
la Guinée n'est pas un pays isolé. Hein. On est bien d'accord.
Dans le contexte sous-régional, non, elle n'est pas isolée.
Mais dans la réalité, il n'y a que les élites féministes qui s'insurgent contre la polygamie à l'heure actuelle en Guinée, non?
Pourquoi n'est pas proposée la polyandrie? Je me dis, oui. Pourquoi il y a pas. Des tribus, il y a des tribus dans le monde,
dans la
pratique, pourquoi pas
aujourd'hui,
l'étendre.
Il n'y a que les élites féministes qui s'insurgent contre la polygamie. Vous êtes une toute petite poignée.
Ah, quoi?
Accusé d'être à la solde des organisations internationales.
Et aussi, et de l'Occident, et tout ce qu'on veut. Mais moi, aujourd'hui... En tout cas, les jeunes, moi, les jeunes gens de ma génération avec qui j'échange, les jeunes garçons, les jeunes hommes, les jeunes femmes, ce qu'ils me disent, c'est qu'aujourd'hui, on ne recherche pas la quantité, on recherche la qualité, du partenaire.
Relation,
c'est ça. Donc aujourd'hui,
oui,
moi, j'ai tendance
à voir jusqu'à trouver, c'est ça.
Voilà, si vous voulez. Mais en tout cas, une fois qu'on décide de s'engager, on s'engage avec une personne et c'est pour le long terme. Aujourd'hui, moi, c'est plutôt ce discours que j'entends au niveau des jeunes.
En tout cas, pour l'heure, l'entrée en vigueur du nouveau code civil est suspendue.
Est suspendue, on attend, donc on espère que effectivement, on ira au bout et qu'on reviendra sur la polygamie.
Mais c'est dommage parce que du coup, effectivement, les articles qui étaient en faveur des femmes, qui étaient un vrai progrès, comme le partage de l'autorité parentale, comme la liberté de choisir sa profession.
Passons au deuxième plan.
Il ne faut pas que qu'on jette tout en même temps, qu'on essaie vraiment.
Paola Martinez, on parle du Brésil avec vous. Le nouveau président Jair Bolsonaro, d'ailleurs, a rassuré là tout récemment les investisseurs économiques à Davos. Il a fait un discours où il était très accroché à ses fiches. D'ailleurs, il ne s'est jamais caché qu'il ne connaissait rien à l'économie. Ça, c'est pour Anna, qui est l'économiste de formation. Et comme il était beaucoup question du réchauffement climatique, il a dit « Nous sommes le pays qui préserve le plus l'environnement.
La bonne blague. »
Alors, il a pas mal de projets pour l'Amazonie, notamment pour les terres indigènes. Et extrait de ses paroles qui circulent sur le net.
Pas un centimètre de plus pour les terres indigènes, ok ? Voilà ma réponse.
Pas un centimètre de plus pour les terres indigènes, voire moins.
J'aimerais tellement ne pas parler de cet homme-là, mais on est obligé, parce que là, ce qui se passe, c'est vraiment dangereux. Qu'est-ce qu'il a décidé ? De déplacer en fait le ministère de la Culture, de lui donner plein pouvoir pour limiter et délimiter et exproprier carrément les terres indigènes. Mmh. Il faut savoir qu'au Brésil, il y a 209 millions d'habitants, 1 million ces indigènes encore, des peuples autochtones qui vivent la plupart d'entre eux à l'Amazonie, déjà fragilisés, très mis en péril avec la déforestation illégale, l'extraction de l'or illégale et plein de choses illégales. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Il lance un décret. Ces 23 jours de Bolsonaro, ils ont été assez forts, comme il a frappé très très fort dès le début. Il demande à sa ministre de l'Agriculture, déjà une ancienne lobbyiste des groupes agroalimentaires,
Grandes propriétaires terriennes, Cristina Correa de Costa.
Justement, de laisser libre libre choix à l'industrie agroalimentaire des pouvoirs éventuellement exproprier et s'approprier aussi ces terres indigènes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Les indigènes, vraiment, ils ont mis avec une peur noire de savoir ce qui va se passer avec eux, parce qu'ils sont quand même minorité. D'ailleurs, il l'a dit très fortement une fois, il méprise totalement les minorités. Bolsonaro, il a dit que c'est une minorité isolée, manipulée par les ONG, et ensemble nous allons les intégrer parce qu'eux, ils ne vivent pas dans la vraie vie.
Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Qu'est-ce qui va se passer ?
J'espère...
Il y a des risques de guérilla ?
Non, je ne crois pas. Absolument pas, parce que les gens quand même, ils sont très très attachés à la Pachamama, je vous plairais un terme, un cas quechua, mais ils sont quand même très attachés à la terre. Ils sont des gens pacifistes. Jusqu'à présent, en fait, on sait pertinemment que l'Amérique latine, en général, c'est une terre, dans laquelle les gens défendent leur terre. D'ailleurs, pas pour rien. La plupart d'activistes qui ont été tués l'année dernière, 322 activistes environnementaux, ils ont été tués en Amérique latine, la plupart d'entre eux au Brésil, parce que les gens sont profondément attachés.
Ils défendaient les minorités et les causes environnementales.
Et ils se battent contre un géant, les géants des multinationales agroalimentaires, qui est malheureusement dans tous les continents, pas seulement au Brésil, c'est ça le problème, c'est un fléau et universel dans cette partie du monde.
On lit aussi quand même, Paola, que l'agro-business a parfaitement conscience des enjeux du réchauffement climatique et a bien compris que ça allait pénaliser l'agriculture, notamment l'appauvrissement des sols, et que il y a quand même une prise de conscience et une réflexion de l'agro-business.
Non, mais la prise de conscience, c'est les moindres. Juste, je termine. La prise de conscience, c'est les moindres, parce que qu'est-ce qu'ils pensent toujours ? C'est, encore une fois, tout ça, c'est protégé par un système néolibéral dans lequel, qu'est-ce qu'ils priment ? C'est l'argent. C'est faire du profit. C'est permettre justement à la Barrick Gold, qui est une entreprise canadienne, d'extirper, d'extraire et des minéraux partout dont il peut mettre sa main, et en détriment des minorités, en détriment de l'environnement de la terre.
Je vous donne un exemple. Effectivement, les grands leaders de ces grandes entreprises d'agroalimentaire en Amérique latine, que ce soit les propriétaires ou que ce soit les dirigeants, salariés, ils en sont très conscients, et la preuve en est que pour eux, dans leur maison, ce qu'ils mangent, ils ne mangent pas ce qu'ils produisent, ils mangent ce qu'ils produisent dans des petits terrains protégés pour leur consommation et de leur famille uniquement. Et donc, ils en sont conscients.
Bon, il faut espérer voilà, un contre-pouvoir de la société civile, une mobilisation des ONG.
J'aimerais aussi qu'il soit, pour une fois, la ONU, l'Organisation internationale du travail, qui protège justement à travers des conventions, la 169 notamment, qui protège les peuples autochtones, qui puissent faire leur part aussi. Parce qu'il ne faut pas laisser un homme d'État comme Jair Bolsonaro, qui a tous les pouvoirs aujourd'hui, parce qu'il a été élu avec une large majorité et qui fait partie d'une grande puissance économique aussi en Amérique du Sud, puisse laisser cet homme-là libre de faire ce qu'il veut. Notamment, j'ai fait un appel avec ma petite voix.
Alors vous nous dites ça, espérer... tous les regards sont tournés vers le Venezuela aujourd'hui.
Mais il faut espérer notamment que l'ONU, que tout son organisation sociale et les ONG continuent leur lutte justement pour protéger ces minorités qui, là, on les voit clairement, ils sont vraiment, vraiment menacés.
Ana Navarro Pedro, retour sur la terre américaine, bien que vous soyez portugaise, la jeune élue démocrate Alexandria Ocasio-Cortez
est latine.
Exactement, une latino, élue à New York, est chahutée par les républicains et ça vous énerve.
Ah, mais c'est plus que ça, c'est vraiment très curieux ce phénomène. Elle a été chahutée elle est 29 ans, hein, toute jeune, elle est très belle, elle est très chic, en même temps très élégante.
Plus jeune élue de l'histoire du Congrès, voilà. Latino-américaine, membre de l'aile gauche du Parti démocrate.
Voilà, très à gauche, elle se revendique socialiste dans un pays où se revendiquer socialiste équivaut à se dire en Arabie Saoudite qu'on est athée. Hein. Mais effectivement, commençons par là. Il y a l'élection de Speaker, donc de la présidente de la Chambre des représentants.
C'est Nancy Pelosi qui est élue.
Et quand elle arrive, on vote en se levant et en disant le nom de la personne pour laquelle on vote. Quand est son tour de se lever et de voter, elle est chahutée, elle est huée par les bancs des républicains. Elle se rassoit et peu après, elle fait un Twitter en disant « Hé les gars !» Ne m'haïssez pas parce que vous n'êtes pas moi. Et donc, vous voyez déjà là, il y a tout ce sens de la partie qu'elle a, et il y a déjà tout condensé, le pourquoi de cette AOC, puisqu'on l'appelle AOC maintenant, c'est plus Alexandria Ocasio-Cortez, c'est très long, on l'appelle AOC aux États-Unis, et cette AOC mania. Il faut dire que elle utilise les mêmes tactiques que les républicains utilisent depuis longtemps, c'est-à-dire...
Des attaques personnelles, hein, parce qu'elle,
elle subit des attaques personnelles. Commençons par une chose. Elle a d'abord été attaquée sur son programme qui est très à gauche, on l'a vu. Mais c'est très à gauche aux États-Unis, très rapidement. Elle veut la sécurité sociale pour tous, c'est-à-dire la couverture assurance maladie. Elle veut...
Taxer aussi les riches.
Ça c'est différent. Elle veut que les collèges, les universités publiques d'État soient gratuites. Elle veut une retraite digne. Elle veut une allocation chômage. Bon, voilà.
On peut toujours rêver du paradis, en effet.
Voilà. En Europe, on connaît ça depuis un certain temps. On est en train de le démanteler, mais on le connaît. Mais donc, ça, elle est très attaquée là-dessus. Comme ses attaques avec son sens de la repartie, et parce qu'elle est cohérente, n'ont pas donné fruit, elle a été attaquée sur sa personne. D'abord, on l'a photographiée de dos en disant qu'elle était trop élégamment habillée pour quelqu'un qui venait d'un milieu pauvre, parce qu'effectivement, elle venait d'un milieu pauvre de New York. Ensuite, on l'a attaquée parce qu'elle a dit « J'arrive à Washington, les loyers sont très chers, moi j'ai pas assez d'argent jusqu'à mon premier chèque de député pour payer mon loyer. » On l'a attaqué là-dessus, on s'est moqué d'elle, etc. Ça ne marchait pas. Ensuite, on l'a attaqué pour dire que c'est une esservelée, et on a déterré une vidéo où elle dansait. Elle dansait, c'était une vidéo faite pour attirer des étudiants dans son université d'État à Boston.
Elle est très populaire chez les jeunes, hein.
Elle est populaire.
Elle utilise les réseaux sociaux aussi.
Elle utilise les réseaux sociaux, mais d'une façon, avec une maîtrise extraordinaire. Parce qu'elle les utilise pour montrer ce que c'est la politique. Elle arrive à Washington et elle montre tous les dessous de la politique à Washington. Elle ne va pas dans le caniveau. Mais par exemple, elle démontre qu'à un moment donné, pour les nouveaux qui arrivent à Washington élus, l'Institut de sciences politiques d'Harvard leur fait un séminaire où sont invités des hommes d'affaires, des dirigeants d'entreprises qui viennent leur dire « Surtout, vous ne faites pas de vagues. Hein. » Et personne ne savait ça. Personne en dehors des élus et des hommes d'affaires. Elle les cache sur Instagram.
Elle les cache, mais pourquoi cette jeune députée démocrate de l'extrême gauche, de l'aile gauche des démocrates cristallise finalement une telle haine chez les républicains? Parce qu'elle répond. Parce que politiquement, ce n'est pas un poids lourd.
Elle répond. Et comme elle répond, elle utilise les réseaux sociaux comme un mégaphone, comme un véritable mégaphone un peu hurler son agenda. Elle répond, et quand elle répond, elle fait le buzz sur les médias mainstream. Elle arrive chez elle, attendez, elle arrive chez elle, elle prépare son dîner, elle se met sur Instagram, et pendant qu'elle prépare son dîner, elle parle avec les gens qui ont élu ou qui n'ont pas élu, mais qui sont dans sa circonscription. Elle, en direct, elle chatte, elle raconte, elle défend ses points de vue, et elle est en train de préparer le dîner, comme si elle les avait invités dans sa cuisine à prendre un café.
C'est une nouvelle façon de faire de la politique, c'est une femme.
Avec un risque d'exploser en vol aussi ou pas?
Bien entendu. Je pense qu'elle est assez costaud pour résister justement à ça.
Alors, on verra, parce que c'est trop tôt pour le dire, mais moi, voilà, ce qui m'interpelle, c'est qu'elle est rafraîchissante et puis elle a de la repartie. Et ça, c'est rare chez les politiques. Et qu'est-ce qui, pourquoi cristalliser autant d'attention sur elle? Moi, je pense que déjà, c'est pas la seule où on voit souvent, lorsqu'on est une femme en politique, en général, on amasse beaucoup de critiques. Et non seulement elle est une femme, mais elle est jeune et en plus, elle est élégante. Et voilà, donc ça fait que ça fait beaucoup, il y a une convergence de causes qui peuvent provoquer cette cristallisation là et voilà, moi
oui. Et puis quand elle détermine l'agenda des news aux États-Unis, parce que quand elle dit au cours d'une interview, c'est à quoi Paula disait tout à l'heure, il faut taxer de 70% tout ce qu'on gagne après avoir fait 10 millions de dollars, eh bien même les prix Nobel d'économie sont en train de se pencher là-dessus maintenant, et elle détermine l'agenda des news et politique. Ouais. Et elle est en train de
ça
pousser.
Ça, c'est relatif encore, mais
au moins, ils donnent des bonnes idées. Vous avec nous. En tout cas, elle est très organisée. Elle sait où elle va. Elle a des objectifs. Ça, c'est clair. Vous restez avec nous, les tchatchos. Dans quelques instants, dans quelques secondes, un auteur va vous donner des conseils pour votre vie. Soyez très attentifs, parce que c'est un Américain qui a presque inventé l'eau tiède.
Pour nous, les voisins, c'est comme une seconde famille. Ouais. 7 milliards de voisins.
Cette idée de voisinage, cette idée de proximité.
Tout ça, ce sont les voisins.
C'est vraiment
se donner des occasions de parler, de se parler.
Sans se voir forcément, et donc de voyager.
RFI. Et la planète se parle.
Alors, c'est une méthode qui permettrait, je dis bien qui permettrait au conditionnel, de mieux organiser sa vie. Son inventeur est un designer graphique basé à New York, Ryder Carroll, qui avait des difficultés à se concentrer et probablement une nette propension à s'éparpiller. Il faut dire qu'il est tout le temps sur Instagram aussi. Bon. Bref, il explique sa méthode dans un livre qui rencontre un grand succès, qui a été vendu dans 42 pays, le Bullet Journal, édité en français chez Fayard, qu'on pourrait traduire par carnet de bord avec des points clés, hein, puisque ça vient de bullet points. Donc, vous voyez, c'est pas de la grande littérature, hein, c'est boum, 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 hein, en gros. Charlie Dupio a rencontré Ryder Carroll alors qu'il était de passage à Paris pour la promotion de son livre.
That started very early on in elementary school.
Cela a commencé très tôt, j'étais encore à l'école primaire. J'avais alors un cahier pour tout. Un cahier pour les maths, un cahier pour l'anglais, mais aussi un cahier pour mes photos, car j'aimais les collages et des journaux intimes. Pour définir simplement l'idée du bullet journal ou du journal à puce, il faut parler d'une méthode, car ce n'est pas un simple carnet. C'est une pratique de pleine conscience, déguisée en système de productivité, qui ne nécessite rien de plus qu'un stylo et du papier. Cette méthode aide à clarifier, d'un côté, nos quoi dans notre vie, les choses que nous devons faire, et de l'autre côté, les pourquoi, les raisons pour lesquelles nous les faisons. Cela vous aide non seulement à devenir plus organisé et concentré, mais cela vous permet aussi, au quotidien, de vous assurer auprès de vous-même que vous comprenez pourquoi vous allez dans telle direction et pas dans une autre. L'idée, en fait, c'est de vous assurer que vous avez bien réfléchi avant de vous lancer dans un projet, quel qu'il soit.
Et ça peut passer par un carnet, par le fait de poser les choses sur papier.
Le carnet sert d'outil. Il aide à déconnecter d'Internet et donc à être moins distrait. Vous ne pouvez pas pianoter sur votre téléphone dans une main et avec l'autre écrire sur un papier. Il faut choisir. Et vous pouvez écrire au moins 5 à 10 minutes par jour.
Et vous le dites dans votre livre, selon plusieurs études, nous avons entre 50 000 et 70 000 pensées par jour.
Oui. Si chaque pensée était un mot, nous pourrions écrire un livre chaque jour. Quand vous posez les choses par écrit, vous êtes obligé de mettre des mots sur vos pensées, d'articuler ce que vous avez à l'esprit. Je suis inquiet, mais de quoi? Je suis énervé? Pour quelle raison? Si vous écrivez simplement les mots « en colère » sur une page, cela ne va pas vous aider. Alors que si vous développez, si vous écrivez « je suis en colère pour telle ou telle raison », cela ne signifie pas que vous allez mettre fin à ce ressenti, certes, mais au moins vous avez progressé. Il faut donc commencer à mettre en mots ce qui vous passe par la tête constamment. Et immédiatement, cela vous apporte une certaine distance, une perspective. Et le but, soyons clairs, n'est pas d'écrire les 70 000 pensées qui vous traversent l'esprit chaque jour, mais de noter celles qui méritent que vous vous en souveniez. Dans le bullet journal, la méthode que je propose, c'est de trier nos pensées par catégorie. Il y a nos tâches à accomplir, nos événements à venir, et nos notes sur ce qui s'est passé. Ce sont les trois principales catégories de pensées qui existent. Les choses que l'on doit faire, les choses qui nous arrivent et les choses que nous ne voulons pas oublier. Une façon d'avancer, c'est donc pour moi de prendre des notes. Mais ce n'est pas simple, personne ne nous apprend jamais comment on prend des notes. On nous dit « prenez des notes, prenez-les bien », comme si par magie, on devait comprendre tout seul comment y arriver au mieux.
Et alors cette manière d'organiser sa vie peut concerner la vie personnelle et la vie professionnelle. Par exemple, dans le livre, vous parlez d'un moment où il faut trier ses vêtements et en fait on peut écrire les objectifs, bloquer un moment sur le calendrier, acheter des sacs poubelles, sortir tous les habits de la penderie, jeter, donner.
A lot of times when we set goals.
La plupart du temps, quand on se fixe des objectifs, ils restent à nos yeux de simples concepts. Cela nous effraie et on ne sait pas par où commencer. L'approche que j'aime adopter et que je conseille, je l'ai tirée du monde de l'édition des logiciels. Vous prenez un objectif important et vous le décomposez en plusieurs petits objectifs qu'on appelle les sprints, comme des étapes intermédiaires. On peut les réaliser en une durée relativement courte d'une à quatre semaines.
J'ai devant moi un carnet, blanc encore. Est-ce que vous auriez un conseil à me donner et puis à donner aux voisins qui nous écoutent pour commencer ?
Pour identifier les choses que vous pensez être pleines de sens, importantes à vos yeux dans la vie, je pense que cela peut être une bonne idée de commencer par écrire une nécrologie. Oui, de vous-même. Ce n'est pas si rare. C'est un exercice proposé lors d'ateliers d'écriture, par exemple, parce qu'il permet de regarder sa vie avec du recul, de voir à quoi elle ressemblerait si elle s'arrêtait maintenant. En regardant en arrière, vous pouvez vous demander « Que regrettez-vous de ne pas avoir fait ? Quel temps auriez-vous aimé prendre et pour en faire quoi ?» Cette remise en perspective peut vous aider à réaliser ces projets-là maintenant, sans plus attendre. En réalisant cet exercice, on prend conscience qu'on va mourir. Alors que va-t-il se passer avant ça ? Quand, pour la dernière fois, vous êtes-vous arrêté un instant pour réfléchir et comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites dans la vie ? Si aucune raison ne vous apparaît, c'est qu'il y a un problème.
Le Bullet Journal, édité chez Fayard de Ryder Carroll, ça réagit beaucoup dans le studio. Djaretou Diallo, vous étiez la plus calme. Hein.
J'écoutais parce que bon, au lieu de... Je préfère écouter.
Ça vous interpelle ? Vous êtes une femme de liste déjà ?
Moi, je fais beaucoup de listes, je fais beaucoup de tableaux. Donc voilà, en ce sens, c'est pas nouveau. Mais,
sur vos objectifs personnels, sur
non,
soi ?
Non, pas. En fait, moi, ce qu'il dit, c'est rien de nouveau. D'ailleurs, moi, penser sa nécrologie, bon, moi, je trouve ça un peu morbide. D'ailleurs, ça me fait un petit peu peur. Je préfère vivre la vie comme elle vient. Mais c'est... Alors, pourquoi pas ? Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais moi, personnellement, je sais que je médite. Et depuis que je médite, c'est ma façon de poser mes pensées. Je prends 10 minutes tous les jours et j'ai pas forcément besoin d'écrire, voilà, d'écrire les choses. Le fait seulement de penser, voilà, d'isoler les pensées, ça m'aide déjà beaucoup. Donc, est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'écriture ? Tout le monde est différent, voilà, pourquoi ça fonctionne. Pas. Pourquoi pas voilà.
Moi, j'écris. J'avoue, j'ai des carnets où j'écris beaucoup, mais bon, il a inventé un peu les journaux intimes aussi, le type. Hein. Sauf que là, tu mets la poubelle et tout ça, c'est des choses domestiques. Moi, ce qui m'interpelle avant tout, c'est que les gens achètent ces gens libres. Et donc, du coup, peut-être là, il y a un vrai problème dans une vie qui est frénétique où les gens n'ont pas le temps du tout de s'en occuper des choses.
Est-ce qu'on vit dans une confusion collective ?
Je pense qu'il y a une confusion collective.
Est-ce que la
confusion
en dehors des États-Unis ? Parce que moi, je me demande, mais quelle éducation les parents donnent à ces enfants qui ne leur apprennent pas à systématiser, à établir leurs priorités. Mon père, j'étais toute petite, il trouvait que je faisais trop de choses et il trouvait que j'étais désorganisée. Il insistait et que je pariait trop sur ma mémoire et il m'insistait pour que je fasse des listes et puis il disait quand tu veux prendre une décision, bah, écris d'un côté les pros et de l'autre côté les cons, etc.
Il avait inventé le développement personnel, votre père, en fait.
Je pense que tout le monde faisait ça et mon père n'a pas fait fortune.
Mais lui, il préconise tout l'enjeu des matérialiser parce qu'il dit on passe trop de temps dans les choses très virtuelles, Internet, etc. Donc il faut à un moment basculer vers le matériel.
Et c'est pour ça qu'il bon vieux carnet.
Justement, et prendre les stylos et écrire.
Il y a quand même l'idée de reprendre le contrôle de sa vie.
Tout à fait. Plein de livres comme ça, ils le préconisent aussi. Bah oui.
En tout cas, les gourous de développement personnel ont pris une vraie place, peut-être la place des penseurs tout court d'ailleurs, pour gouverner nos vies. Merci à vous, les tchatcheuses, d'avoir été avec nous, Anna Navarro, Pedro, Paola Martinez. Merci à vous, Djaretou Diallo. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azerwal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Évidemment, l'émission est à réécouter en podcast et sur l'appli RFI Pure Radio. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera éducation comme chaque vendredi. Et puis, vous pouvez, vous savez, à tout moment, nous écrire tout simplement par mail à 7milliards@rfi.fr et sur les réseaux sociaux. À demain.